France Culture.
Agnieszka Hollande, bonjour.
Bonjour.
Pour ce quatrième temps des À Voix Nues, je propose que nous partions aux États-Unis, où vous avez vécu pleinement une dizaine d'années. Après avoir parlé de la Pologne et de votre enfance, de la Tchécoslovaquie, où vous avez été formé à l'Académie du cinéma, la fameuse FAMU, et où vous avez vécu mais le 68 pragois, le printemps de Prague et sa répression. Après la France, nous voilà donc partis aux États-Unis, où vous vous êtes essayé à de nouvelles narrations cinématographiques, en partant des séries, en particulier les séries américaines. Vous avez été l'une des pionnières d'ailleurs à faire l'aller-retour entre le cinéma et les séries. Mais je voudrais quand même, avant de parler des séries, faire un petit point sur trois films que vous aimez beaucoup. Je veux parler de Olivier Olivier, réalisé en 1992, qui est le seul film français, vraiment français, que vous avez fait, avec Brigitte Rouen, François Cluzet, Grégoire Collin, Jean-François Stévenin, avec des dialogues de Régis Debray, donc on est surpris par un peu tout. Je veux parler du Jardin secret, en 1993, que vous avez adapté d'un conte anglais qui est un livre culte dans les pays anglo-saxons et qui est un livre culte de votre enfance, qui a été produit par Francis Ford Coppola, s'il vous plaît. Et puis, je veux parler de Rimbaud Verlaine, que vous avez appelé Total Eclipse.
C'est le titre original de la pièce de scénario de Christopher Hampton.
Voilà, 1995, avec Leonardo DiCaprio. Quel statut ont ces trois films, réalisés donc au début des années 90, au moment où vous partiez aux États-Unis, après avoir quitté la France pour vous?
Ah ben, ce sont des films faits pour des raisons assez différentes. Olivier Olivier, le scénario j'ai écrit quelques années avant de pouvoir réaliser le film. Et c'est inspiré par une histoire vraie aussi, disparition d'un petit garçon qui s'est retrouvé comme un adolescent après un certain temps. Il y avait la question si c'est le même ou si c'est pas le même. Ça veut dire les problèmes d'identité encore. De ça, ce double titre, je l'ai réalisé juste après Europa Europa. Et de dire, c'est un film poétique, oui, on peut dire, psychologique.
Entre mais, drame familial et suspense psychologique.
Oui, mais en même temps, il y a quand même un poids des émotions très fort et tragique, parce que on parle de disparition d'un enfant. Et c'est toujours quelque chose que n'importe qui a parents s'imagine comme un cauchemar, le pire cauchemar. Et c'était un film franco-français. Je l'ai écrit avec l'aide de quelques amis, avec Régis aussi. Et il est intéressé pour un tout petit peu revoir le dialogue, ça veut dire l'adapter en français. Et j'avais une chance de pouvoir de travailler avec ces acteurs splendides, très courageux, très sensibles. Je pense quand je dis que le film est réussi, on peut le voir en pourcentage des réussites, parce qu'on a certaines... On a certaines prévisions, on a certaines ambitions, on a certaines désirs avant de commencer le film. On s'imagine ça peut être comme ça, comme ça, comme ça. Et à la fin, c'est jamais complètement accompli. Et il y a toujours, je ne sais pas, 20, 30, 50% de désespoir qui manque au résultat final. Et certains films sont plus près de ça que je pensais. Ça veut dire, c'est très subjectif, bien sûr.
Olivier Olivier en fait partie.
Olivier Olivier, oui, en fait partie.
Le Jardin secret aussi en fait partie.
Le Jardin secret, c'est un peu différent parce que c'est un film de grand studio américain. Ça veut dire, c'était Warner Bros. Avec tout ce qui est lié avec cette façon de travailler. Moi, c'était un choix très rationnel, d'un côté. De l'autre côté, quelque chose que j'avais besoin exactement après Europa Europa et Olivier Olivier, des films qui sont chargés des émotions très, très dures et très tragiques, de faire quelque chose qui est plus léger, mais plus optimiste aussi. Et j'ai vraiment adoré ce livre quand je lis. Je me souviens même jusqu'à aujourd'hui, la première fois quand je le lis, j'avais la fièvre, j'étais dans le lit, j'ai dû avoir, je ne sais pas, 8 ans, 7 ans, 8 ans plus tôt. Ça résonnait, ça réveillait mon imagination sensuelle. D'ailleurs, dans ce livre, on l'a essayé d'aboutir dans le film aussi, c'est le symbolisme sensuel qui est très fort et qui est en même temps très compréhensible un peu pour tout le monde, pas seulement des femmes d'ailleurs. C'est un livre qui était lu surtout par des petites filles, jeunes filles.
C'est un livre c'est une histoire d'enfant, c'est un auteur d'enfant, c'est une histoire d'enfant.
Oui, c'est un auteur célèbre anglais d'enfance. Elle parle, dans le livre, elle parle des mêmes paysages que les serres brontaises, ça veut dire Yorkshire. Je l'imaginais très très fort avant de le voir.
Et la Warner Bros. Comme Francis Ford Coppola vous ont laissé totale liberté
pas
pour
du
le...
tout.
Pas du tout.
Non, pas du
donc,
tout.
Le film n'est pas comme vous l'imaginiez alors.
Ça veut dire, je savais que c'est dur de faire le film avec les Américains. Je savais qu'ils vont intervenir à chaque stade. Je savais que Francis, que bien sûr j'adorais comme metteur en scène, c'est pas la garantie de défense des auteurs, parce que c'était juste après quand Wim Wenders a fait le film qu'il a produit, Hamet, ça s'est pas très bien passé. C'est-à-dire, je savais que je serais pas complètement protégée. Et j'avais beaucoup de propositions des côtés américains après Europa. Je me souviens pas aujourd'hui combien, mais c'était beaucoup, beaucoup de scénarios qui ont atterri à ma table. Et je me suis dit, ici, c'est un film pour les enfants. C'est déjà, je serais pas, le budget n'est pas énorme. Et il n'y aura pas de stars, parce que ce sont surtout les enfants qui sont les personnages principaux. Ça veut dire, je n'aurai pas cette pression d'employer celui ou l'autre. Et après, Angleterre, la culture anglaise, la culture victorienne, ces livres-là, je les connais beaucoup mieux que les Américains. Ça veut dire, on va tourner en Angleterre, hein, en plus. Ça veut dire, je serai loin de la source des problèmes. C'était vrai, mais pourtant, la préparation et le tournage étaient pleins de problèmes et la finition encore plus. J'ai dû me battre pour chaque chose pratiquement. Et je me suis battue, hein. Mais bon, j'ai pas gagné tout, mais quand même, je pense que j'ai réussi à sauver ça qui était principal et ça qui était le plus beau. Mais ça m'a coûté beaucoup. J'avais une crise d'allergie pendant le tournage, qui après m'a empêché de manger toutes les poissons et des fruits de mer pendant 15 ans. Et j'ai presque mouru parce que j'avais cette queue d'endémie, ça veut dire j'avais
des œdèmes gonflés.
Oui, j'ai changé dans un monstre. Ma fille qui était mon assistante au bureau à l'époque, elle m'a pas reconnue quand je suis entrée dans le bureau, mais peu importe. En tout cas, cette allergie, on a dit que c'était provoqué par des crevettes, mais en réalité, je pense que c'était allergie sur un grand studio américain.
Pourtant, jusqu'à Hollande, ça ne vous a pas empêché de recommencer en tournant avec Leonardo DiCaprio. Total Eclipse, donc, Rimbaud-Verlaine.
Total Eclipse n'était pas un grand studio américain du tout. C'était le producteur français. Jean-Pierre Lévy Ramsey, c'était son projet. Il était le producteur. Bon, il avait des coproducteurs anglais ou je ne sais pas, belge, mais c'était sa production et il m'a donné toute ma liberté. Ah, okay. Oui,
dans la mesure où.
Leonardo a accepté de jouer.
C'est dans l'acteur seulement qui était. Oui, d'accord, qui était américain.
Et David Tullis qui a joué Neverland. Et Leonardo était exceptionnel. À l'époque, il était en plus si beau et si différent comme il est venu d'une autre planète, vraiment.
Alors, d'une autre planète, vous aussi, d'une certaine façon, Agnieszka Holland, vous êtes venue, puisque vous êtes venue de la planète cinématographique avec tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, aussi bien en termes de production que d'origine, de film, de genre de film, pour aller vous essayer à la planète série. Au moment où vous avez commencé, c'était assez rare encore que des grands cinéastes aillent faire de la série. Vous regardiez des séries déjà dans les années 90, vous aimiez ça?
Oui, je regardais un peu, pas beaucoup. Je regardais les séries encore en Pologne, puis il y avait les séries pas mal. D'ailleurs, j'ai travaillé, j'ai fait des choses pour la télévision en Pologne, surtout des films de la télévision, mais aussi quelque chose qu'on a appelé théâtre de la télévision, ça veut dire adaptation d'une classique ou des pièces de théâtre. Mais oui, j'ai regardé, j'ai commencé dans les années 90 de regarder les séries. Il y avait des séries qui étaient faites encore pas pour câble, mais qui était très très bon, je pense, très réaliste, très intéressant. Une, c'était West Wing.
À la Maison Blanche en français.
Oui, qui était une série formidablement créée par Aaron Sorkin, très bien jouée. En plus, donnant le goût aux politiques, à la politique, montrant que la politique, c'est quelque chose de très complexe, fascinant, dramatique, et que les gens qui font la politique, y compris les présidents ou ceux qui travaillent pour eux, sont les gens qui sont pas des monstres, qu'ils veulent vraiment aboutir à quelque chose qui sera bien pour les autres. Cette vision positive de la politique, je pense, était très positive aussi pour la confiance sociale, les fois qu'on peut choisir les gens qui sont meilleurs et pas forcément que tout le monde est corrompu et terrible. Et l'autre série, c'était ER. ER, ça veut dire cette série avec George Clooney, jeune, Julia Margulies, des urgences. Oh, je pense que ça s'appelait des urgences.
Urgence?
Oui,
urgence en français.
C'était plusieurs saisons d'histoire d'une urgence dans un hôpital.
Absolument.
Après, il y avait plein de séries comme ça, mais celle-là, elle était vraiment révolutionnaire.
Elle a beaucoup marqué, celle-là. Oui.
Révolutionnaire d'ailleurs, un autre collègue cinéaste qui a adoré cette série, c'était Tarantino, qui a d'ailleurs tourné quelques épisodes, même, je pense, avant quand j'ai commencé moi. Mais avant de faire la série, j'ai fait plusieurs films en Amérique, et encore avec le grand studio, avec Disney, c'était Washington Square.
Absolument. Adapté de Henry James.
Après, j'ai fait un film indépendant qui s'appelait Troisième Miracle. Je pense qu'en français, ça s'appelle différemment. Avec Ed Harris, de nouveau. Armin Müller-Stahl. Et après, j'ai fait ce film pour la télévision, pour HBO. Et c'était ma introduction dans les HBO, qui étaient très ambitieux à l'époque, mais ils ont aussi cherché de nouveaux acteurs et une nouvelle façon de raconter.
De nouvelles narrations.
Oui, nouvelles narrations. Je me suis dit, quand Nina Noble, la productrice de David Simon, avec qui j'ai fait Shot in the Heart, m'a proposé si je ne voudrais pas de faire c'était, je pense, troisième saison déjà, ou deuxième? Troisième.
De The Wire?
Oui, Wire, c'est la troisième saison.
Troisième saison, oui. Vous avez commencé par les...
Et David m'a donné...
L'épisode 8 de la saison 3.
C'est toujours les épisodes qui sont au milieu sont les plus difficiles toujours. Et bon, en tout cas, je l'ai fait. C'était une expérience, je peux vous dire, cinématique un peu, mais surtout politique. Ça veut dire, en entrant dans le monde de David Simon, j'ai découvert vraiment toute la tragédie de la politique, de la vie sociale et politique américaine et des tragédies des grandes villes américaines. Il y avait beaucoup de gens vrais, des vrais personnages qui ont joué dans ces séries, pas des acteurs professionnels.
Parce que The Wire, sur écoute en français, se passe à Baltimore. Et c'est vraiment une plongée sociologique, politique, économique et culturelle dans des quartiers de Baltimore et au travers de métiers, au travers de gens, au travers de personnages qui représentent aussi des communautés. Mm-hmm. Donc on est plongé dans la ville américaine de Baltimore.
Oui, c'est un peu comme les romans de Dreyer, Theodore Dreyer, la tragédie américaine ou quelque chose comme ça. Il y a une complexité épique dans cette série qui est rare. Et c'est en plus quand David Simon, c'était un reporter pendant longtemps au Baltimore Sun, il la connaissait tout par cœur. C'est très très bien documenté. D'ailleurs, il a toujours invité encore pour écrire dans le cas de Wire, c'était un ex-policier avec qui il a écrit, Ed Burns, c'est formidable. Il s'est servi aussi des expériences de beaucoup de gens qui étaient impliqués aussi bien dans la crime que dans la police ou dans la vie politique.
Chez les dockers, dans les milieux de la drogue,
Oui, les écoles, tout ça était couvert par cette série.
Ce qui fait d'ailleurs de The Wire une des séries, sinon la série la plus étudiée, même à l'université.
Oui, d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que c'est la meilleure série jamais faite. J'avais l'honneur d'être partie de cette...
Absolument.
Mais à part de ces donneurs de le faire, des acteurs ou les acteurs non professionnels avec qui je pouvais travailler, c'était aussi une éducation très profonde sur exactement la politique américaine. Si je n'aurais pas fait Wire et après Tremé, je pense que j'ai jamais vu dans cette lucidité des problèmes de la société américaine. Par exemple, j'étais la seule parmi mes amis universitaires ou cinématographiques qui a dit au moment quand Donald Trump se présentait pour la première fois au primary, au primaire, qu'il va gagner. J'ai vu très bien les raisons pourquoi il va gagner. Et après, d'ailleurs, c'est paradoxal parce que quand j'ai fait, il a gagné les premières élections, Donald Trump, quand j'étais en train de réaliser un épisode de House of Cards. C'était assez spécial parce que le personnage principal de House of Cards, c'est le président des États-Unis qui est un escroc, un assassin pratiquement. Quelqu'un très très mauvais, très cynique, très brutal.
C'est l'inverse de The West Wing, hein.
C'est le contraire.
C'est vraiment l'inverse.
Oui, et d'ailleurs, quand
c'est la politique dans tout ce qu'elle a de pire, c'est le cynisme, ça donne pas du tout une belle idée de la politique, hein.
Non, le contraire. Exactement, quand j'ai réalisé le premier épisode, parce que j'ai aussi réalisé en trois saisons, des épisodes, pour House of Cards, ils m'ont invité à revenir. Je me suis aperçue qu'on fait quelque chose de très dangereux. Parce que les Américains, ils croient à la télévision. Ça veut dire, ils croient à ça qu'ils voient à la télévision, peu importe si c'est une fiction ou un documentaire. Plutôt la fiction, parce que ça les touche tout de suite. Ils communiquent avec la fiction. Ils sont habitués à ça. C'est leur pain quotidien. Ça jouait les effets très positifs socialement. Par exemple, ça habituait les publics généraux à accepter les homosexuels. Je pense que les séries ont aidé beaucoup
à changer les mentalités.
Oui. Et aussi, je pense que Obama n'aura jamais gagné les élections présidentielles s'il n'y avait pas de président de couleur avant dans des séries populaires comme 24 heures par exemple ou les autres. Mais ici on a fait le contraire, on a montré aux gens que Maison Blanche et Washington c'est un nid de la crime et de cynisme total. Et que le président, exactement, peut être comme ça. Et les
ça, gens, c'était House of Cards.
Oui, House of Cards. Et les gens ont commencé à croire que Washington, c'est ça. Et après, quand il est venu, je ne dis pas que c'est la seule chose qui a déclenché ce changement de la vision de la politique, mais ça, assurément, la série était extrêmement populaire. En plus, on a parlé beaucoup d'elle. Ça a aidé à faire croire aux gens qu'on peut pas avoir une confiance dans Hollywood. Après, c'était utilisé beaucoup par ceux qui ont vu les complots partout, qui ont accusé le président comme, je ne sais pas, John Biden ou les autres d'être les assassins ou en tout cas de faire des complots terribles contre, je ne sais pas, des pédophilies ou quelque chose comme ça. Ça a ouvert un tout petit peu la porte à cette nouvelle politique qui est post-politique dans certaines façons.
Et vous dites, Agnieszka Holland, que vous avez été éduquée avec la réalisation de ces épisodes, notamment de The Wire, mais sans doute aussi sur Trémé, qui porte sur la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina en 2005, que vous avez été éduqué d'un point de vue politique, c'est-à-dire à la politique américaine. Est-ce que ça a changé quelque chose aussi, ou est-ce que vous avez été éduqué à la façon de filmer des séries de façon différente du cinéma? Autrement dit, on dit souvent que au cinéma, c'est le réalisateur qui est roi. On entend peu parler du scénariste. Alors que sur la série, c'est l'inverse. C'est de fait David Simon, pour ce qui est de The Wire, pour ce qui est de Trémé, c'est vraiment lui le créateur. On parle que de David Simon et les réalisateurs tournent, changent. Quand on est une réalisatrice de cinéma comme vous et que vous arrivez en plein milieu d'une série, que vous réalisez un épisode et puis après vous repartez, quelle est la marge de manœuvre qui est la vôtre?
Ben, elle est limitée, ça dépend de série. On sert la vision de quelqu'un en essayant d'apporter quelque chose en plus. Et cet en plus peut être meilleur ou pire, hein, ça dépend un peu des circonstances et de son propre talent ou détermination. Je dis apporter quelque chose si David a toujours voulu que je revienne, que je fasse. Le fait, par exemple, que je fais pilote de Trémé, c'était exceptionnel. Personne n'a compris ce choix-là. Parce que c'était...
Qu'il vous donne à faire le pilote?
Une Polonaise, une femme d'abord, dans les milliers de musiciens noirs.
De la Nouvelle-Orléans.
Oui, de Nouvelle-Orléans. Un sujet si chaud à l'époque, parce qu'après Katrina, c'était quelque chose que tout le monde a parlé. En plus, après ou ailleurs, Simon était un roi de la télévision. Et il y avait beaucoup de metteurs en scène, de mes collègues, qui ont voulu faire cette série.
On dit par même exemple, que Spike Lee était sur les rangs.
Oui, Spike Lee, par exemple. Et il a choisi moi. Ça montrait la confiance qu'il a dans mon façon de voir ces choses-là. Il n'était pas déçu, d'ailleurs, je pense.
Les spectateurs non plus, je vous rassure. C'est un épisode absolument formidable. Vous mettez tout en scène. Enfin, vous créez le monde de Trémé. C'est sans doute pour faire le premier épisode.
Ma fille m'a aidée parce qu'elle a fait deuxième équipe dans les pilotes. Elle a beaucoup apporté aussi. Hein. Mais ils ont donné à moi surtout les possibilités, les producteurs, de vraiment se plonger dans cette ville. J'ai passé 3 mois de préparation, ce qui normalement se passe pas. Et j'ai commencé à sentir cette second line, de sentir cette musique spéciale. Je parle pas seulement des points de vue musical, mais la musique de la vie. Il y avait une fille noire qui était notre conseiller. Elle était demandée par un journaliste, est-ce qu'elle, comme une personnage importante dans la communauté noire de Nouvelle-Orléans, est-ce qu'elle n'est pas déçue que c'est moi qui réalise cette série et pas, par exemple, Spike Lee? Elle a répondu, non, qu'est-ce que Spike sait sur la tragédie? Agnieszka le sait beaucoup mieux.
Parce que vous avez filmé un monde détruit, c'est la destruction d'un monde.
Oui, j'avais tout de suite les souvenirs de mon enfance à Varsovie. Et je me suis servi de ça d'une certaine façon pour nourrir mon imagination psychologique. À quoi ressemblent les gens qui reviennent dans sa maison qui est totalement détruite et qui doivent commencer la vie à nouveau sans être vraiment aidés par qui que soit, sans aide psychologique non plus. Parce qu'il n'y avait pas les shrinks qui ont travaillé pour la communauté noire à Nouvelle-Orléans après cette catastrophe et tout ça. Mais c'était très intéressant. Ça veut dire, je n'étais pas tellement fière de mon travail de mettre en scène sur le pilote, oui, de Trémé, parce que c'était à moi de décider le style et de le faire. Mais à chaque série que je fais, j'ai appris des choses. Et c'est pas vrai que ces réalisations, c'est la même chose. Vous placez la caméra, vous travaillez avec les acteurs, vous trouverez le rythme. Ça veut dire le boulot, c'est le même boulot, sauf que la marge de votre liberté est limitée.
Et après, elle est limitée par quoi?
Elle est limitée par le créateur, par les séries, par le scénariste, par tout ça, et par le choix des autres. Par exemple, dans The House of Cards, c'était David Fincher qui a façonné la série. Et c'était très strict, c'était très rigide.
C'est là que vous n'avez pas beaucoup de latitude artistique.
Oui. Et c'est moins intéressant. Ça, ce qui était intéressant, c'était le sujet et les acteurs, surtout.
Et est-ce que vous devez faire attention? Vous disiez tout à l'heure que arriver au milieu d'une série et faire les épisodes du milieu, ce qui a été le cas pour The Wire notamment, c'était le plus difficile. Est-ce que ça veut dire que vous devez aussi faire attention à la patte artistique, au style artistique de vos prédécesseurs quand vous arrivez au milieu?
Oui, avec, dans certaines séries, c'était plus rigide, exactement. Dans The Wire, oui et non. Ça veut dire, c'était, oui, David était très véridique. Il a voulu absolument que tout sera comme dans la réalité, ce qui est de temps en temps gênant, et de temps en temps contre la nécessité ou contre les effets, les bons effets de travail. Parce que, par exemple, il a voulu qu'on tourne toujours dans les bars, où les gens comme ça, c'est vraiment rencontre. Mais les bars à Baltimore, il reste un bar, il ressemble à un autre. Ça veut dire, à un certain moment, si vous avez 5 bars dans l'épisode, les spectateurs ne peuvent pas savoir où vous êtes, etc. Ça veut dire des choses comme ça. Il n'a pas pensé cinématographiquement, il a fallu avec lui, on peut se battre pour certaines. Mais bon, ce sont des détails. Ce sont des détails, mais ce qui est Moi, j'aime la série, mais la série qui me fascine comme metteur en scène, ce sont mini-séries. Ça veut dire les séries limitées de quelques épisodes où vraiment je peux contrôler tout.
Ce que vous avez fait avec Sacrifice, Agnieszka
Holland,
en 2013.
Oui, le Sacrifice, c'est le plus vrai aussi.
Ouais. Sacrifice, oui, Burning Bush, dont nous avons parlé dans un épisode précédent, puisqu'il se passe à Prague après la mort par immolation de Jan Palach.
Hein, oui.
Des suites. Donc vous vous êtes essayé à ça, à une mini-série.
En tout cas, ce qui est un peu ennuyant dans la série, c'est que chaque épisode doit avoir plus ou moins la même construction, parce que le but, c'est de faire à la fin de l'épisode que les gens ne le lâchent pas et qu'ils ont envie de regarder
l'épisode suivant.
Et après certains moments, vous voyez comme cette mécanique est mécanique. Et je me suis dit, ça ne m'intéresse plus. Ça ne me donne pas de nouvelles choses. Par contre, ça peut nuire certaines originalités de mon caractère d'écriture. Et je me suis habituée à la facilité. Les séries habituées à la facilité. Je pense que si les metteurs en scène ont des ambitions plus grandes que de faire son métier, ils ne peuvent pas faire trop de séries parce que ça les casse. Ça le casse dans l'air élan créatif propre.
Et donc, vous êtes retourné au cinéma, que vous n'aviez jamais quitté, à vrai dire. Mais faire des séries ne vous a absolument pas fait perdre votre amour du cinéma. Bien au contraire, ça vous a redonné peut-être goût à ce cinéma qui vous semblait peut-être un peu plus académique pendant un temps. Et vous voilà avec des films dont nous allons parler dans l'épisode suivant qui portent sur des sujets qui sont les vôtres à nouveau, les derniers films en date. Et j'ai intitulé cet épisode « Contrer la crise d'espoir ». La crise d'espoir étant celle que nous vivons actuellement. Et donc nous allons parler cinéma et nous allons parler politique pour le prochain et dernier épisode. Merci Agnieszka Holland.
Merci. Et ce sera le plus sombre.
Peut-être pas. Allez, on va voir. On espère que non.
On va voir. Merci.
C'était À Voix Nue avec Agnieszka Holland. Réalisation Laurent Polleret. Prise de son Nicolas Mathias. Chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.